Une erreur a été commise par l'ensemble de la presse et par nous-mêmes hier soir.
La relation d'un privé, d'un homme politique avec un patron d'entreprise, fût-elle une entreprise de médias, ça fait partie de la vie publique, de la vie privée.
Vous verrez, vous êtes jeune, dans une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, vous serez aussi celui qui tutoie les hommes politiques.
Non, il n'y a pas de sujet tabou, il y a simplement, je crois qu'on peut parler de n'importe quel sujet à la télévision à n'importe quelle heure. Il s'agit de savoir comment elle va le faire.
La seule, le seul élément qui puisse nous faire reculer, c'est la difficulté d'accéder à l'information. Je crois que c'est ça. Mais aujourd'hui, on a envie d'enquêter sur tout.
Une erreur a été commise par l'ensemble de la presse et par nous-mêmes hier soir.
Jean-Paul II, c'est décidément un pape pas comme les autres. Un pape surprenant, un pape que les publicitaires eux-mêmes admirent.
Il a ce qu'on appelle, nous, la pêche, c'est-à-dire la forme.
Citrone, ce vieux larbin, Moujotte, ce faux derche revenu de toutes les gauches, Bassi ou Cavada, si nul, si prétentieux.
Une erreur a été commise par l'ensemble de la presse et par nous-mêmes hier soir.
Il y a la loi de l'offre et la demande. Donc on est dans un prestataire qui est une agence photo qui vend un sujet et qu'on choisit d'acheter ou pas. Et puis on discute du prix, enfin comme n'importe quel reportage.
Je vous en prie. Vous avez parlé pendant 10 minutes au moins de l'affaire Georges Marchais. Non, tout le monde se fout strictement. Je vous signale que la jeunesse française se fout strictement de ce que M. Marchais faisait pendant la guerre.
Et la question c'était pourquoi est-ce que ce sujet n'est jamais passé à la télévision. Bon, et en fait, quand on répond, on s'aperçoit que ça n'intéresse pas les réponses.
Tout est dit.
Tout est dit.
Vous êtes bonjour. Bien...
Pardon, bonjour Philippe, bonjour Com.
Bonjour.
Donc vous êtes bien sur l'antenne de Radio Béton et c'est Radio Propagande qui vous parle.
Oui, alors bonjour, donc on a donc dans le studio Philippe.
Moi-même. C'est toi ça.
Voilà, Com.
C'est moi.
Bonjour Com.
Et bonjour. Moi c'est Amélie, c'est facile à reconnaître.
Voilà. Donc Radio Propagande, c'est donc une nouvelle émission qui aura lieu tous les 15 jours, tous les 15 jours le jeudi de 11h à midi. Une émission de décryptage des médias, d'analyse de tout ce qui communique, de la publicité, des médias de masse, de la communication politique, etc., etc. On commence tout de suite dans le vif du sujet avec une petite brève, en fait, une petite analyse qu'on a faite cette semaine sur, on va dire, l'épopée Sarkozy qui continue. Et il a encore fait parler lui cette semaine.
Bah oui, c'est rigolo de commencer par lui en fait, hein, parce que je pense que si on fait l'émission pendant 2 ans, là, jusqu'en 2007, il va revenir souvent à la rubrique manipulation et communication quand même. Bref. Donc lundi, effectivement, il faisait une émission sur France 3 consacrée au terrorisme. Enfin, l'émission s'appelle Pièce à conviction. Et là, c'était une spéciale terrorisme. Donc les journalistes et lui-même ont expliqué qu'il y avait beaucoup de dangers terroristes en France, mais qu'évidemment, on était protégés, machin, tout ça, que ça allait bien. Bref, une émission relativement classique sur ce thème-là. Et il y a eu juste un moment qui a déclenché une polémique dans les jours qui ont suivi, une petite polémique, hein, mais quand même, sur le fait que pendant l'émission, Sarkozy annonce à un moment qu'au moment où il nous parle, une cellule terroriste a été démantelée par ses services, évidemment, et que donc on est protégé, et que la police fait bien son travail. Et cette arrestation a été filmée, on voit les images. Le problème, c'est que l'émission a été diffusée lundi soir, hein, le 26, et l'arrestation avait eu lieu le lundi matin. Mais l'émission elle-même a été enregistrée 5 jours plus tôt, le 21. Ce qui veut dire, en fait, qu'on a eu une émission où Sarkozy a... Eh oui, le scoop. Sarkozy a parlé d'une arrestation qui n'avait pas eu lieu, en disant qu'elle allait avoir lieu, mais sans en être totalement sûr, et surtout en organisant l'émission de façon telle qu'il avait prévu que l'arrestation allait avoir lieu le bon jour, c'est-à-dire le lundi, le jour de la diffusion, ce qui veut dire entre autres que déjà pendant 5 jours, bah, ils ont laissé une cellule terroriste qu'ils étaient sûrs d'arrêter, mais ils l'ont laissé tranquillement faire ce qu'ils avaient à faire. Et puis ça veut dire aussi que les journalistes ont accepté d'organiser l'émission de façon telle qu'ils savaient que ce dont Sarkozy venait de parler n'avait pas encore eu lieu, mais que ça allait avoir lieu, et que donc ils enregistraient l'émission en faisant comme s'ils savaient que ça avait eu lieu et qu'en fait ils n'en étaient pas sûrs, mais que ça allait avoir lieu. Alors la défense du ministère de l'Intérieur, c'est en fait que Sarkozy, pendant cette émission, fait une allusion en fait à une autre arrestation qui avait eu lieu quelques jours plus tôt, qui n'était pas une arrestation d'un groupe vraiment terroriste, mais en fait d'un réseau pour envoyer des jeunes musulmans français combattre en Irak, en Afghanistan et ailleurs. D'ailleurs, c'est une arrestation où tous les gens ont été blanchis et libérés 4 jours plus tard. Mais donc ils ont été libérés après l'enregistrement. Donc le ministère de l'Intérieur dit que la phrase de Sarkozy faisait allusion à ce groupe-là et pas à celui qui avait été arrêté devant les caméras de télévision le lundi matin, le jour même de l'émission. Et il explique aussi que si la télé était là, c'était pas du tout de sa faute, hein, mais que quand on fait une opération avec la DST, les renseignements généraux et le GIGN, forcément les médias sont au courant. Ce qui quand même pose une question, parce que la DST c'est les services secrets, les renseignements généraux c'est censé être un peu secret aussi, et puis le GIGN c'est le groupe d'élite de la gendarmerie, donc de l'armée, et c'est pas non plus censé être très très public ce qu'ils font. Et donc là Sarkozy nous annonce que quand ces trois groupes-là d'élite font des opérations, forcément les médias sont au courant, forcément il y a des fuites, c'est son terme, et donc tout le monde est au courant. Ce qui nous pose quand même des questions sur notre réel degré de sécurité. Ouais.
Et puis surtout, ils sont là pour cadrer super bien les images. On les voit carrément caméra à l'épaule, derrière les flics péter les portes et tout. Enfin, c'est toujours très mis en scène, donc ça semble assez étonnant. En tout cas, si ils arrivent à avoir ces images-là, c'est bien que les flics qui sont là et puis le ministère est d'accord pour qu'ils filment ces images-là. Là, c'est déjà un petit exemple de la communication politique à la française, dont on aura justement un petit dossier tout à l'heure avec le roi de cette communication-là, qui s'appelle Monsieur Séguéla. Donc on verra ça un peu plus tard dans l'émission. Là, j'ai une petite brève du journal PLPL, donc pour lire Palu, dont on vous parlera souvent, nous annonce en fait... nous renvoie à un monsieur qui s'appelle Denis Jambard, directeur de l'Express, et qui parle en fait de notre société. Alors il dit « Nous sommes repus, blasés, recroquevillés sur les privilèges dont nous jouissons. Nous vivons une époque extraordinaire et nous ne le voyons pas. » Donc c'est dans un édito de l'Express qui s'appelle « Le printemps des peuples ». Voilà, donc c'était le 4 avril 2005, juste avant le nom à la Constitution européenne. Et là, c'est une brève en fait qui renvoie un peu à cette idée que le journalisme, ou en tout cas le milieu journalistique, vit un peu en circuit fermé. C'est-à-dire en gros, qui finalement a des privilèges dans notre société, qui vit repu et blasé, c'est pas du tout la majorité de la population française. Et pour exemple, justement, cette brève se finit en annonçant les rémunérations de pas mal de gens du milieu journalistique. Alors je vous les lis. En 2004, selon Le Point, c'est quand même Le Point qui balance là-dessus, la rémunération de Patrick Lelay, c'était 2 millions 52 667 euros.
PDG de TF1, Patrick Lelay.
Voilà. Étienne Moujotte.
Directeur des programmes.
Voilà. Il a empoché 1 556 239 euros. Voilà. Et Arnaud Lagardère a empoché, je ne sais même plus lire, il y a tellement de trucs, 1 959 100 euros.
Lagardère, marchand d'armes et marchand de journaux.
Voilà. 44,5% par rapport à 2003. Il a fait quand même presque la moitié de bénéfices en plus. Bernard Maheu, qui est sur Canal+, 1 614 000 euros. Maurice Levy, qui est publiciste, 3 200 000 euros. Et Jean-René Fourtout, donc PDG de Vivendi Universal, 3 449 000 euros. Donc évidemment qu'un mec comme Jean Barre, quand il écrit sur sa société, il se dit « repu blasé, recroquevillé sur les privilèges dont nous jouissons ». Mais évidemment, il ne parle pas de la France, il parle de lui-même.
Alors, est-ce que vous avez d'autres brèves sur la télé ou la radio ou toutes sortes de médias ? Plus ou moins.
Bah, ça va pour l'instant, je sais pas.
Oui, la dernière illustre bien la façon de vivre en vase clos, comme on dit. Alors, on se fait une petite pause musicale avant de passer à quoi d'autre après ?
Au dossier sur Séguéla et la communication, enfin début de dossier, puisqu'on parlera souvent de communication politique.
Début de dossier, puisque t'as pas assez travaillé, t'as pas fait la fin du dossier ?
Pas du tout, parce que c'est beaucoup trop gros pour en parler en seulement quelques minutes, enfin.
Très bien. Alors, on va écouter un super groupe qui s'appelle... Je me lance. Je sais, j'ai un mauvais accent en anglais. The International Noise Controversy. Ça va ?
Ouais, c'est pas mal.
Non, c'est trop nul. Bon, on écoute la numéro 6. C'est la dire.
Wake up, all power.
reprenons l'antenne. Il est 11h13 et c'est Akom qui va nous parler de notre roi à tous,
Jacques Séguéla.
Jacques Séguéla.
Oui, je vais parler de communication politique en fait. C'est ce qu'on disait, on en parlera souvent dans l'émission, vu que la politique a quand même beaucoup tendance à se réduire uniquement à de la communication et à de l'effet médiatique. On le voit bien en ce moment avec la multiplication des candidatures pour la présidentielle, les combats entre les uns et les autres, Villepin, Sarkozy, etc. La même chose à gauche, bref. Donc la politique, c'est aujourd'hui malheureusement beaucoup de la communication. Et ça n'a pas toujours été comme ça, évidemment. Il y a évidemment la télé qui joue beaucoup un rôle assez important. Et en France, il y a eu un autre événement en fait qui est arrivé à peu près en même temps que la télévision. C'est l'élection du président de la République au suffrage universel direct, qui est arrivé en 1965.
Ouais.
Bravo. C'est bien. C'est bien, Philippe. Avant il était élu par les grands électeurs, donc à partir de 65, c'est le peuple qui élit directement le président, et depuis c'est le rendez-vous rituel de la vie politique française et le poste le plus prisé évidemment. Donc en 65, le président sortant, donc celui qui a gagné, c'était De Gaulle, donc lui faisait pas vraiment de la communication au sens propre, mais parce qu'il avait déjà une image qui était construite depuis la guerre, etc. C'était le chef de la France libre.
Charles De Gaulle, quoi.
Voilà, il n'avait pas besoin de grand-chose. Alors, je ne sais plus qui disait d'ailleurs, le meilleur conseiller en communication de De Gaulle, c'était Hitler. Mais c'est pas très gentil. Ouais. Et donc, bref, lui ne faisait pas d'efforts particuliers pour se donner une image, mais ses opposants ont essayé. C'est-à-dire que Mitterrand a commencé à beaucoup utiliser la télévision à cette époque-là. Et Jean-Luc Canuet aussi, qui était une sorte de François Bayrou de l'époque, le candidat centriste, a aussi essayé de se donner une image par la télévision.
À la Kennedy, un peu.
Voilà, ouais, il y a eu des essais de tentatives de Kennedy en France, mais ça n'a pas bien marché pour l'instant. Voilà. Le Canuet, c'était pas trop ça, quand même. Donc bref, De Gaulle gagne en 65 sans faire beaucoup d'efforts, mais avec des opposants qui ont commencé à utiliser la télévision. En 69, alors c'est après 68, donc c'était une élection un peu particulière, vu que la gauche s'est effondrée complètement, etc. Donc il n'y a pas eu réellement de communication non plus. Puis Pompidou était l'héritier de De Gaulle, donc il est passé assez facilement. Donc ça commence essentiellement après en France la vraie communication politique, c'est-à-dire avec le premier président non gaulliste qui est Giscard en 74, où lui va faire beaucoup d'efforts sur son image et va essayer de se construire une image de président jeune et dynamique, pas vraiment à la Kennedy, mais plutôt à une espèce de nouvelle politique de rupture, ce qui est évidemment pareil assez surprenant quand on voit Giscard, hein, mais par exemple, à l'époque, on n'était pas si vieux.
On le voit, par exemple, se baigner dans la mer, faire du football, un peu comme Villepin en ce moment, qui utilise voilà. Les mêmes
les vieilles recettes
en maillot de bain. C'est toujours plaisir d'avoir un candidat en maillot de bain.
Tous, tu crois? Giscard, c'était l'accordéon, et puis les émissions de télé où il s'invitait chez les Français en filmant évidemment le repas, les vœux aux Français avec sa femme au coin du feu, etc. Donc c'est lui qui fait les premiers efforts de vraiment construction d'une image par les médias. Et puis on arrive à l'élection de 81 avec François Mitterrand qui donc va gagner l'élection. Et c'est ce qu'on situe maintenant comme la première grosse victoire de la communication politique, c'est-à-dire que Mitterrand va gagner l'élection en ayant comme conseiller Jacques Séguéla, qui va lui construire toute sa campagne, et surtout le fameux slogan « La force tranquille », qui, d'une certaine façon, a fait gagner l'élection, ou en tout cas a donné à François Mitterrand l'image qu'il fallait. Donc Séguéla, il avait déjà fait quelques campagnes avant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est beaucoup associé au PS, mais il a commencé à travailler pour la droite, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il avait fait les campagnes du RPR et de l'UDF dans les années 70. Et puis à partir de 78, il fait la communication du PS, en 78, donc c'est législative. Où il a déjà un slogan qui avait marqué beaucoup de gens, qui était le socialisme, une idée qui fait son chemin, avec une affiche de François Mitterrand qui marche sur un chemin, une image déjà très France traditionnelle.
Super idée.
Ah bah c'est des publicitaires, hein. C'est pas rien non plus. Et puis donc 81, la situation politique c'était assez serrée entre la droite, donc Giscard qui défend son titre, et puis Mitterrand qui est le challenger, mais où la gauche a encore une image très très révolutionnaire, c'est-à-dire que au PS il y a encore des gens qui parlent de OPS, hein, pas OPC, ouais, je ne sais quoi, des gens qui parlent de dictature du prolétariat,
de
révolution, de oui, enfin de
d'anti-libéralisme et capitalisme,
tout. Voilà de rupture avec le capitalisme, de toutes ces choses-là. Donc évidemment il y a une partie du pays qui a très peur de tout ça, qui a peur des chars russes à Paris, etc. Donc le Séguéla va essayer de modifier l'image de François Mitterrand. Et sa trouvaille géniale, c'est la fameuse affiche et le fameux slogan La Force Tranquille, sur laquelle il s'explique tout de suite en duplex sur Radio Béton.
Qu'est-ce qui vous inspire La Force Tranquille?
D'abord, il va me dire, Séguéla, je ne suis pas sûr de me présenter, ce que Mitterrand disait à chaque élection, c'est la stratégie du désir, mais je voudrais comprendre la communication. Donc si vous voulez bien, on est au mois d'août quand il me dit ça, ou fin juillet. À la rentrée en septembre, nous voyons tous les lundis, et vous m'expliquez toutes les campagnes, à la fois les campagnes politiques aux États-Unis, en Angleterre, en France, etc., et à la fois les campagnes grand public. Et à ce moment-là, je m'aperçois que la seule chose qui peut faire gagner Mitterrand, c'est qu'il arrive à convaincre une petite frange de l'électorat de droite. Il faut que je fasse une campagne de droite. Donc je pense à une affiche pétiniste, déjà avec des couleurs bleu, blanc, rouge. Tout sauf une affiche de gauche. Et puis j'ai besoin d'un symbole rassurant, parce que Mitterrand et la gauche terrorisaient les Français. D'où je me dis, mais finalement, il faut que j'arrive à parler d'une France tranquille. Quand je l'ai montré à Mitterrand, instantanément il a dit, ça c'est formidable, il faut faire ça.
Voilà, c'était Séguéla.
Comme quoi les publicitaires font parfois preuve d'une franchise assez terrifiante. Ça, c'est un extrait qui date de cette année, hein, de 2005.
Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, une franchise, mais 25 ans plus tard quand même. De dire, j'ai fait une affiche pétainiste pour faire élire Mitterrand en 81, c'est quand même... Bah, il pouvait pas le dire en 82, quoi.
Ouais, ni même pendant la campagne. Mais par contre, on va écouter une autre petite phrase qui, elle, date de 81 et qui date même du 11 mai 81, c'est-à-dire le lendemain de la victoire de François Mitterrand. Où Séguéla parle dans un journal télévisé et revient sur le rôle sur son rôle de publicitaire pendant la campagne.
On est le liant. On est l'huile dans un moteur. Le moteur peut fonctionner sans huile, mais il fonctionne moins bien. Et même parfois il casse.
Je crois que les publicitaires de France, aujourd'hui, peuvent être fiers. Leur métier va entrer dans l'histoire de France, car c'est la première fois en France qu'un candidat à la présidence de la République appelle une agence de publicité pour l'aider à mieux se communiquer et qu'il le reconnaît officiellement.
Voilà, ça c'était le bon extrait, excusez-moi pour le début.
On a été piraté par le ministère de l'Intérieur, c'est sûr.
Mais ça avait l'air très intéressant cette intervention
oui,
sur le lubrifiant.
Un autre extrait où il y a un publicitaire qu'on vous passera plus tard, peut-être pas dans cette émission-là, mais où les publicitaires ont des images toujours incroyables pour parler de leur métier. Et là c'était un publicitaire qui disait en gros, nous les publicitaires, nous sommes les lubrifiants de la machine capitaliste, quoi, en gros. Quoi. Voilà. Ouais.
Tout ça donne quand même une idée relativement précise de l'ego de Séguéla, hein. C'est-à-dire que depuis 81, il a toujours tendance à beaucoup expliquer que, comme il le fait là, donc dès le lendemain de la victoire, à expliquer que c'est grâce à sa campagne et grâce à son travail de publicitaire et de communicant que François Mitterrand a gagné et que l'histoire de France a été modifiée, d'où son expression des publicitaires qui sont rentrés dans l'histoire de France. Mais sur l'efficacité des campagnes, on peut essayer de voir ce que ça donne. Évidemment, La Force Tranquille, ça a joué, puisque effectivement, vu la situation politique de 80, Mitterrand devait de toute façon gagner des voix à droite pour devenir président. Quand on faisait l'analyse sans se poser la question des médias, c'était de toute façon ce qui allait faire la différence et ce qui a fait la différence, en l'occurrence, que une partie de la droite rejoigne son électorat. Mais par contre, sur le reste, Séguéla revient toujours sur cette campagne-là, mais il en a quand même fait beaucoup des campagnes dans sa vie, et il en a perdu un certain nombre, dont la dernière, la plus frappante, celle de Jospin en 2002. C'est-à-dire qu'il a fait élire Mitterrand, ce qui historiquement est quand même un événement important, mais il a aussi réussi à faire perdre un candidat que tout le monde, pendant des mois, mettait au deuxième tour, et même éventuellement président, sans aucun problème. Il a quand même réussi à le faire arriver troisième à l'élection présidentielle en 2002. Donc c'est aussi lui qui a fait la campagne. Et il en a fait beaucoup dans beaucoup de pays depuis les années 70. Et il a utilisé, je ne sais plus exactement le nombre, mais il a réutilisé 30 ou 40 fois le slogan de La Force Tranquille, dont certaines fois, où il l'a vendu. Et il y a des fois, il se retrouvait opposé à son propre slogan, et donc obligé d'en trouver un autre pour le candidat qui défendait.
Et des fois, il perdait contre son propre slogan.
Voilà. Il a perdu contre Lech Walesa, qui a utilisé le slogan de La Force Tranquille, aussi un petit peu dans la même situation d'ailleurs, c'est-à-dire où Walesa ne pouvait gagner qu'en faisant une candidature unanime, consensuelle, etc. Et donc la force tranquille a encore marché ce coup-là.
Bravo pour la politique. Bravo pour cette leçon de communication. Enfin, on s'écoute une petite pause musicale. Philippe, je te laisse peut-être la présenter parce que c'est ton CD.
Ouais, c'est Rockin' Squad, donc c'est Assassin qui avec le morceau de démocratie fasciste.
Ah mais si j'avais su, j'aurais pas préparé ça, hein, vraiment.
Our war on terror begins with Al-Qaeda. But it does not end there. It will not end until every terrorist group of global reach has been found, stopped, and defeated. I have a message for our military. Be ready. I've called the armed forces to alert, and there is a reason. The hour is coming when America will act, and you will make us proud. May God grant us wisdom. Watch over the United States of America.
Face à la politique de George Bush et de Dick Cheney, le combat est planétaire, mon rap reste déchaîné. Tout est organisé, je te l'ai dit depuis 10 ans. Mon EP, lire comme assassin, ça se ressent. Ne crache pas dans la soupe qui t'a donné à manger. Quand t'as mangé chez moi, rien n'est fait empoisonné. Va voir les vrais fachos comme Jerry Falwell et comme RR, tu vas vite rock the bell. Je m'explique, Bush fait partie de la droite chrétienne, anti-homo, anti-païen, anti-lesbienne. Ça permet de se rapprocher des valeurs des néoconservateurs, faire alliance à Washington et agir en dictateur. Les nouvelles en 2004 sont intéressantes, mes frères. Il paraît qu'en Irak, on est parti faire la guerre sous l'étendard de combattant le terrorisme. Qu'on m'explique, j'ai vu un film où c'était Bush le terroriste. Il paraîtrait qu'avec Paul Wolfowitz, ils contrôlent la Maison Blanche et qu'ils aident plus la droite israélienne que la plupart des 50 états de leur pays. Richard Ford, conseiller de Bush, doit pas kiffer la cause palestinienne. Non plus qu'il soutient Israël pour qu'il n'y ait pas Armageddon. C'est quoi ces écrits où Jérusalem doit se plier à une nation? Jérusalem est unique, libre, patrimoine universel. On devrait pas avoir besoin de passeport pour embrasser le ciel. Pendant que tu bois du coca, au business à queue, gros légal ou illégal, yo, remets-toi ma démon. Aujourd'hui, nouveau chapitre, c'est pétrole qui les anime. La tyrannie augmente comme le compte de toutes leurs firmes. Pendant que tu bouffes chez McDo, le business d'armement lourd, vas-y, remets tes nags au pied. Tu peux y aller, vas-y, cours. Une société de délation pour que le contrôle soit parfait. Après, boucher mes lénagies, donc sois pas étonné. Alors, avec le 11 septembre, ils ont eu leur alibi pour régler leurs différends, partir en guerre leur stratégie. Mais attention, pas contre n'importe qui. Les États-Unis ne se trompent jamais d'ennemi. Malgré que l'Arabie Saoudite et 19 terroristes sont les 22, c'est l'Irak qui récoltera la foudre de Dieu. La terreur pour unifier l'opinion publique. Et quand l'ONU veut faire de l'ombre, on décrédibilise NBX. Car le but ultime, c'est la suprématie mondiale. Mais on n'attaque pas les Saoudiens quand on veut l'impérialisme mondial. Au contraire, on leur affrète des avions privés. Et avant de rentrer chez eux, c'est à Paris qu'ils vont manger. L'Arabie Saoudite, c'est pas le pays de la Mecque, non. Qui business avec les steaks et qui la pute ses femmes, non. C'est pas le pays qui investit plus de 100 billions de dollars, eh. Dans l'économie américaine, ils sont en train de les ken, eh. Derrière leur guerre au terrorisme, ils sont bien en business. On fait sauter Saddam, mais Oliverton fait son business. Normal, c'est Dick Cheney qui tient les rênes de ce business. Et pour Lockheed Martin, c'est sa femme qui encaisse les bénéfices. Je n'invente rien, tout est prouvé, je le relais de l'information. C'était pas moi qui fabrique les missiles de croisière Tomahawk. C'est le conseiller du président qui a siégé à Boeing. Tout comme leur hélicoptère Apache qui bombarde les civils. Pendant que tu bois du coca, le business à queue, gros légal ou illégal, yo, remets-toi ma démo. Aujourd'hui, nouveau chapitre, c'est pétrole qui les anime. La tyrannie augmente comme le compte de toutes leurs firmes. Pendant que tu bouffes chez McDo, le business d'armement lourd, vas-y, remets tes nags au pied. Tu peux y aller, vas-y, cours. Une société de délation pour que le contrôle soit parfait. Pas fait boucher, mais les nazis, donc sois pas étonné. Et la CIA, quand Bush était vice-président de Reagan, a aidé dans la guerre Iran-Irak. Saddam était leur partenaire face à l'Union soviétique. Et n'a jamais été pour les States un potentiel terroriste. Mais comme la famille Ben Laden est un touchant pour les Texans, on trouve un bouc émissaire comme à l'époque les talibans. Les attaques du 11 septembre étaient prévues, organisées. On les a laissées passer car tout le monde trouve son intérêt. Cette guerre contre le terrorisme a été basée sur des mensonges. Songe aux lois qu'ils font passer quand on danse sur leurs mensonges. Ashcroft, ministre de la justice américaine, a fait le Patriot Act 2 pour contrôler leur système.
Surveillance of all communications used by terrorists, including emails, the internet, and cell phones.
Ça ressemble plus à l'époque de Staline et de Lénine. Cette guerre, c'est le pouvoir du contrôle qui l'anime. Sous la bannière étoilée, la liberté n'a plus raison. Votre démocratie a des rôles en fascisme, faites attention. Pendant que tu bois du coca, au business à queue, gros légal ou illégal, yo, remets-toi ma démo. Aujourd'hui, nouveau chapitre, c'est pétrole qui les anime. Et la tyrannie augmente comme le compte de
Alors, on reprend, vous êtes toujours sur Radio Propagande, dans l'émission Radio Propagande et sur Radio Béton. Eh bien, nous allons passer à l'article de la quinzaine. Philippe, tu peux nous présenter un petit peu cette nouvelle rubrique ?
Alors ouais, c'est l'idée de choisir dans la presse nationale, locale, internationale un article tous les 15 jours pour le commenter. Donc là, la sélection en fait, elle date un petit peu, mais bon, il fallait marquer le coup quand même. On ne fait pas tous les jours ça. Donc c'est tiré de la NR du 30 août ou du 31, c'est ça que je me souviens plus. Je crois que
c'est le 31.
31 août 2005, donc il y a un mois, où au retour de leurs vacances, les Tourangeaux ont pu avoir donc une NR en kiosque avec en couverture un petit titre qui disait les hauts lieux, non c'était les places où ça craint, entre guillemets, à Tours, les places où ça craint à Tours, l'article en deuxième page, en page 2. Ou en page 4. En page 4. Où,
oui, c'est ça, en page 4.
Voilà, on avait un grand titre qui était bruit, délinquance, drogue, les places où ça craint à Tours. Et donc, rien que dans le titre, là, on a quelque chose d'assez fou. Donc, évidemment, tous les Tourangeaux se disent ouais, je veux savoir où ça craint à Tours quand même, parce que je suis dans une des villes les moins, où il y a le moins de problèmes d'insécurité, entre guillemets, en France. Et pourtant, la NR a trouvé où est-ce que ça craignait. Alors, quand on arrive devant l'article, on a le petit chapeau, là, donc les trucs qui sont écrits en gras, en caractères plus gros, qui nous font un petit résumé de l'article. Et dans ce résumé-là, on a donc une sorte de système d'écriture journalistique qui est assez bien rodé, hein, en
alors,
général.
Alors, je te lis pour
voilà, c'est des équivalences assez incroyables. Voilà.
Bordeloire, rendez-vous des drogués. Quartier Colbert, commerce, Plumereau, carrefour de la délinquance estivale. Place du Maréchal Leclerc, gare, entre parenthèses. Au lieu de la mendicité, Sanitas, trois petits points. Police nationale et municipale sont vigilantes.
Voilà, donc quand on lit comme ça, on se dit, bon, on peut le lire rapidement, c'est à peu près du coup la teneur du reste de l'article. Ce qui est toujours effrayant dans ces raccourcis-là, c'est évidemment, quand on entend Place Plumereau au lieu de la délinquance estivale, ça fait doucement sourire aux 10 000 personnes qui vont boire des cafés Place Plumereau ou qui n'ont jamais trop de soucis d'une manière générale. Les bords de Loire, rendez-vous des drogués, ça reste pareil, une équivalence incroyable. Puis c'est surtout, là, ce qu'il y a à noter, c'est le Sanitas qui est donc placé à la fin et où il y a trois petits points, c'est-à-dire que là, le journaliste n'a même pas osé mettre une équivalence, c'est-à-dire qu'il estime que le Sanitas, de toute façon, il n'y a même pas d'équivalence à mettre, c'est forcément l'endroit où ça craint grave à Tours. Alors que, on est beaucoup, hein, je pense avoir habité au Sanit dans notre vie, moi j'ai habité 4 ans, j'ai jamais eu un pépin, enfin c'est réellement là du fantasme journalistique mis en exergue par la Nouvelle République. Et puis ça se termine pas là, là on est juste dans l'analyse un peu du comment on fait vendre cet article, c'est-à-dire comment on donne envie au lecteur de lire le reste de l'article.
Et un article d'Olivier Pouvreau.
Voilà, d'Olivier Pouvreau. Et cet article-là, en fait, il est là dans la NR du 31, tout simplement pour doper les ventes de la Nouvelle République, parce que on sait très bien que tous les journaux qui surfent sur la vague sur le thème de l'insécurité augmentent leurs ventes à chaque fois. Donc la NR s'est dit, tiens, on va essayer d'augmenter un peu les ventes, on va chercher la délinquance à Tours, et puis on va en trouver évidemment pour essayer de faire un peu de thunes au 31 août. Peut-être qu'ils avaient du mal à finir le mois.
on ne sait pas. En tout cas, pour parler un petit peu plus du fond de cet article, si tant est qu'il y avait réellement un fond, ça commence quand même pour Olivier Pouvreau essaye un petit peu de minimiser les dangers qu'on peut encourir à Tours. Et il commence la première phrase, c'est « Il n'y a pas de place coupe-gorge à Tours, et Tours est une ville calme ». C'est des propos qu'il rapporte de Claude Roiron, qui est donc adjointe...
À la police.
À la police, à Tours. Mmh. Chargé de la police, hein, on dit plutôt. Donc c'est un article qui est donc basé sur un entretien avec Claude Roiron et Noël Payan, donc qui est un monsieur, parce que Noël ça peut être les deux prénoms, qui est lui et bien directeur départemental de la sécurité publique. Donc en fait, il nous rapporte, ce qui est assez intriguant, c'est que c'est un article, donc tu l'as dit Philippe, qui date du 31 août, mais ce n'est pas un bilan de l'été, de la délinquance qu'il y a eu cet été, c'est plutôt un article qui prévient des lieux dangereux à Tours, surtout en période estivale. Donc en fait, un article qui a lieu à la fin de l'été pour vous prévenir que pendant l'été, il y a des places où il ne fallait pas être, mais du coup c'est un peu trop tard de nous prévenir après. Enfin, c'est un peu ça qui est bizarre dans cet article, c'est que c'est pas du tout un bilan. Il y a pas de chiffres, il y a rien. De toute façon, s'il y a pas de chiffres, il y a une bonne raison, c'est que la délinquance ne se chiffre pas. On le sait très bien. Si on porte plainte pour un vol, c'est aussi ou pour une agression. Enfin, pour les agressions, c'est pas pareil. On n'hésite plus à porter plainte, enfin, de moins en moins. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles les chiffres de la délinquance augmentent. Mais par contre, pour ce qui parle de vol, etc., ça, c'est à mettre en. C'est à mettre un peu en nuance, puisque, bien, vous le verrez peut-être dans la journée Vélorussion, que vous faites lundi, je crois.
Samedi,
pardon. C'est-à-dire qu'il y a des choses. On n'hésite pas à aller déclarer qu'on se les fait voler, mais il y a d'autres produits qu'on. Bah, ça sert à rien d'aller le déclarer, donc forcément, ça n'apparaît pas dans les statistiques, notamment les vélos. On ne dit jamais qu'on s'est fait voler son vélo, par exemple. Donc, bon, bref, pour parler de cet article, eh bien, il y a plusieurs endroits qui sont. Donc à bannir, où il n'est pas bon de s'aventurer. Donc c'est vraiment, il faut pas s'y aventurer, surtout en période estivale. Donc ça ne sert à rien de nous le dire après la période estivale. Donc il y a la place Maréchal Leclerc, où il y a une grosse sédentarisation des désœuvrés. Je vous préviens, qui traînent avec des chiens, qui s'injurient. Ça, c'est un constat de Claude Roiron qui passe donc très régulièrement place Maréchal Leclerc, notamment à 5h du matin, puisqu'elle dit que eh bien, les agents du nettoyage du matin eh bien, sont obligés d'être accompagnés par la police pour faire leur travail à cause de ces désœuvrés qui sont en grosse sédentarisation. J'insiste un peu sur grosse sédentarisation au lieu de la mendicité, parce que les mots sont bien choisis. Et sont un petit peu plus énormes que la réalité, finalement. C'est assez
Ouais, c'est du fantasme, enfin, c'est une sur du fantasme clair, quoi.
Par exemple, au quartier des Fontaines, c'est là toujours l'adjointe au maire qui confirme les propos du responsable, du représentant Noël Payen du commissariat. C'est-à-dire, il y a 4 ans, aux Fontaines, c'était l'enfer. Vraiment, tellement il y avait d'actes de criminogènes. Voilà, donc c'était le premier quartier criminogène de la ville, avec donc ce mot un peu barbare, criminogène. C'était donc l'enfer. Donc je vous rappelle que l'enfer, c'est quand même loin de ressembler au quartier des Fontaines, pour ceux qui y sont allés, notamment. Donc voilà, il y a beaucoup de termes comme ça qui essayent d'un peu catastropher la population, enfin le lecteur en tout cas, en décrivant des zonards qui squattent, des personnes désœuvrantes qui vivent de façon tribale, qui boivent beaucoup, qui sont en rupture familiale, qui squattent, qui se droguent. Donc ça, c'est pour nous décrire simplement des gens qui sont mal habillés, mais qui sont dans la rue et qui ont tout à fait le droit d'aller dans la rue. Ce qu'on peut leur reprocher, effectivement, c'est de mal s'habiller. Mais bon, ça, Claude Roiron en connaît aussi un rayon. Et puis, il y a un petit peu des... Bon, voilà, c'est un vocabulaire très... très marquant, qui marque beaucoup en tout cas, avec en sous-entendant aussi, par exemple, à un moment donné, ils disent on essaye de lutter contre ce trafic de femmes roumaines qui font la manche, qui sont exploitées par un même homme, mais après il n'en dit pas plus, donc c'est un petit peu sous-entendu qu'il y a des gros trafics limite d'esclaves sur Tours, ce qui ne veut pas dire que ça n'existe pas, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais il y a une façon de surfer entre le sous-entendu, utiliser du vocabulaire très marquant et en même temps ne pas donner trop de détails sur ces zonards qui se droguent et qui agressent les promeneurs, puisque les promeneurs dérangent le trafic de drogue. Donc voilà, Olivier Pouvreau n'a pas non plus essayé d'investiguer un petit peu plus sur ce que c'est la délinquance et ce que c'est le sentiment d'insécurité. Ça aurait été intéressant de nous en parler un petit peu plus, par contre, parce que oui, il peut y avoir des sentiments d'insécurité. On n'a pas tous envie de se promener dans n'importe quelle rue ni au bord de Loire à 5h du matin, c'est vrai, mais ça aurait été intéressant de faire la différence entre une délinquance et un risque d'agression et un sentiment d'insécurité. Voilà pour Olivier Pouvreau, que nous n'avons pas eu le plaisir d'avoir au téléphone, mais qui, par exemple, nous dit qu'il y a eu 2 événements marquants à Tours. Mais ce ne sont que des propos rapportés. Il n'y a pas besoin vraiment beaucoup d'investiguer, puisqu'il nous dit qu'il y a eu un arrêté anti-mendicité. Mais ça, ce n'est pas un événement nouveau sur Tours l'été, puisque c'est depuis quelques années.
Ouais, c'est que 2-3 ans.
Ça fait un petit peu plus de 2-3 ans que c'est en place, donc ça s'est mis en place le 20 juillet et c'est jusqu'au 30 septembre. Donc nous pourrons fêter la fin de l'arrêté mendicité dans quelques jours.
Voilà, hein, demain,
très exactement.
Ce qu'il y a à reprocher, enfin, en tout cas critiqué dans le travail d'Olivier Pouvreau, donc rédacteur à La Nouvelle République, c'est ce que tu disais tout à l'heure en antenne, Amélie, c'était réellement le manque de travail. C'est-à-dire, là, c'est clair, hein, c'est quelqu'un qui va faire l'interview de Claude Roiron, qui interviewe aussi le directeur de la police municipale, c'est même pas le directeur, enfin, un gars de la police municipale, qui fait que du propos rapporté. On avait fait une petite étude sémantique un peu de l'article, où en gros, Olivier Pouvreau, son travail, c'est de dire. Claude Roiron dit, elle ajoute, Monsieur Machin répond.
Noël Payan précise,
complète. Et à chaque fois, donc, c'est des citations entre guillemets. Et donc, laisser comme ça une tribune à des élus ou des directeurs de la police, forcément, quand on les cite entre guillemets, qu'est-ce qu'on obtient? C'est pas tant une recherche claire, sociale, journalistique sur un sujet, mais plus ce qu'on a pu observer, on relaie leur fantasme personnel. C'est-à-dire que quand on en vient à parler de groupes tribales qui se droguent des jeunes, en gros, c'est ce qu'on a pu dire, nous, on s'est dit tous les trois à un moment, c'est en gros ce que cet article dit, notamment sur la jeunesse, c'est que, en gros, les jeunes puent et se droguent, et que ça, on va le marteler à longueur d'article dans La Nouvelle République. Et voilà, c'est autant un manque de tact de la part des deux personnes interviewé, Claude Roiron, machin, et.
Oui, puisque c'est du vocabulaire assez vieillot, quand même.
Voilà, c'est un manque de tact, mais en même temps, c'est honnards, aussi Pouvreau qui, lui, Olivier Pouvreau, ne reprécise rien du tout sur ce sujet-là. Il ne va pas du tout mettre en perspective le thème de la sécurité, quoi, de l'insécurité, et il ne va pas du tout ni de donner son avis, ni quoi que ce soit, ni mettre en nuance les propos de l'élu ou du directeur de la police municipale. Quoi.
Oui, et puis c'est mettre en cause des lieux de tours qui sont très fréquentés, sans aucune gêne pour beaucoup, pour la plupart. Quoi.
C'est sur ce thème-là, la délinquance, en fait, qu'on voit le mieux l'espèce d'alliance objective, entre guillemets, c'est-à-dire pas une réelle alliance, mais une alliance d'intérêt, en fait, entre la sphère politique et puis la sphère des médias. C'est-à-dire que depuis 2001, alors là c'est au niveau local, mais c'est valable au niveau national et puis un peu partout, le thème de la délinquance, c'est le thème préféré des hommes politiques pour d'abord faire peur quand t'es dans l'opposition pour prendre le pouvoir, et puis après pour montrer que tu fais du bon travail une fois que t'es arrivé au pouvoir. Sarkozy, évidemment, est le meilleur exemple. Et puis pour les journaux, c'est aussi le meilleur thème pour faire vendre, avec toujours cette idée de la peur qui est quand même globalement au centre de la vie politique depuis 2001. Alors, ça avait commencé un petit peu avant les attentats de 2001, mais ça a quand même mis un coup d'accélérateur sur cette idée-là que voilà, il faut faire peur à tout le monde pour que cette sphère-là reste au pouvoir globalement, hein, puisque là il s'agit en fait d'opposer les pauvres aux pauvres, ou les un petit peu moins pauvres aux très pauvres, etc. On sent peur à tout le monde. Et là-dessus, les hommes politiques et les médias ont évidemment le même fonctionnement et les mêmes intérêts à mettre en avant ce genre de thématique et ce genre de raisonnement-là.
Donc merci l'ANR, merci Olivier Pouvreau, qu'on invite à l'antenne quand il veut. Et puis bah voilà, donc méfiez-vous évidemment de La Nouvelle République, et méfiez-vous du coup maintenant d'un article signé Olivier Pouvreau, ça sera synonyme de approximation.
En tout cas, c'est sonner le glas quand le danger est plus là. puisque vraiment, ça n'a aucun intérêt de faire un article sur là où il fallait pas aller les deux mois précédents. On fait une pause musicale, c'est Mickey 3D qu'on écoute.
Soir 20h, la France supper. Tous les soirs 20h, la police vous parle. Tous les soirs à 20h.
C'était le super jingle pour annoncer une nouvelle rubrique.
Rien que pour ça, faut écouter cette émission.
Ouais, pour notre super jingle qui annonce la rubrique sur la publicité. Donc là, ce qu'on a sélectionné là pour aujourd'hui, on va remonter un petit peu presque jusqu'à 6 mois en arrière. Un fonctionnement en fait des publicitaires dernièrement dont on veut parler et évidemment discuter. Ça a commencé en fait avec Leclerc dans février, je crois, ou quelque chose comme ça, janvier-février l'année dernière, qui avait, vous avez certainement vu ces publicités partout dans la ville de Tours, mais ça a été une campagne nationale, donc c'était assez monstrueux sur toutes les pubs de co, les 4x3 en ville, les publicités géantes. C'est,
et donc, la presse aussi.
Et la presse, des affiches en fait qui récupéraient les affiches du mouvement de 68 en fait. Qui était issu de ce qu'on a appelé à l'époque l'atelier populaire, des affiches qui avaient été réalisées par des gens en lutte qui évidemment n'avaient rien déposé et qui avaient fait ça pour le mouvement social. Donc ça représentait les ouvriers en lutte qui disaient nous sommes le pouvoir, ça représentait un point levé souvent pour annoncer des slogans et tout ça. Tout ce type de graphisme a été récupéré, toutes ces affiches-là ont été récupérées par Leclerc, qui en a fait et qui les a transformées. Donc ils ont osé transformer le graphisme en remplaçant par exemple les ouvriers en lutte là qui avaient une clé à molette et un marteau évidemment. Là ils se retrouvaient avec un panier de ménagère et puis je crois un cabas de tomates. Enfin c'était un truc comme ça et le slogan était nous sommes le pouvoir, le même. C'est ça qui était assez terrifiant. C'est-à-dire il y avait un glissement là sémantique en réduisant cette affiche de en 68 vous luttiez pour changer le monde, aujourd'hui en 2005 vous devez lutter pour votre pouvoir d'achat. Donc c'est un thème sur lequel surfe Leclerc depuis début janvier. Alors ça c'est le premier exemple, il y en a eu plein d'autres depuis, donc on vous donne les exemples d'abord et puis après on vous dira ce qu'on en pense. Mais là il y a eu carrément un truc assez fou. Donc c'est un tract de Fiat, je vous le lis hein, c'est un tract en fait jaune où il y a écrit en gros: avec les alters dieselistes, participer à la grande manifestation, oui au tout diesel Fiat. Voilà, donc là on reprend avec un truc un peu bombé et tout, on reprend un slogan, on reprend évidemment, on transforme altermondialisme en alterdieseliste, c'est assez effarant. Et cette pub-là, en fait, elle présente des voitures, hein, des bagnoles Fiat qui roulent au diesel en utilisant donc un lexique, en utilisant un lexique, une forme visuelle de lutte politique, de lutte politique. Ce que vous avez pu voir à l'antenne aussi, sur à la télévision, pour ceux qui regardent encore la télévision. Enfin, moi je la regarde du coup.
On est encore nombreux à la regarder, voilà. Je crois.
Puis moi je la regarde pour pouvoir voir ce qui passe dedans. Et en gros, là pareil, en début de l'année, donc il y a Télé 2, donc un opérateur téléphonique, a fait un lancement de campagne hallucinant, dont ils se gossent d'ailleurs sur leur site internet, puisqu'ils envoient des communiqués de presse à tous les médias pour parler de cette campagne. C'est assez rigolo, des publicitaires qui envoient des communiqués de presse aux médias pour dire attention, on va lancer une nouvelle campagne. Et puis évidemment, les médias.
L'événement, c'est plus le produit, c'est la pub elle-même.
C'est la pub.
C'est la communication elle-même.
Voilà, et évidemment, certains médias vont faire des articles sur la campagne de pub de Télé 2 ou de Vivendi ou de Leclerc ou de des choses comme ça. Et là, donc, j'ai le communiqué de presse sous les mains. Le mot d'ordre en fait de cette campagne de publicité, c'est Télé 2 mobile, c'est la révolution. Donc on utilise le mot révolution, mais ça fait un moment que ça s'utilise, même pour des lingettes essuie-tout à la maison. Maintenant c'est la révolution. Swiffer, c'est la marque qui parle de trucs révolutionnaires. Sauf que là, dans le clip télé, je sais pas si vous l'avez vu, c'est assez marquant en fait. C'est quelqu'un qui est dans la rue, qui a un espace à la rue, un espace de naissance de révolution, hein, par évidence, qui est donc sous un abribus et qui est en train de téléphoner et qui dit j'en ai marre, ça coûte trop cher, je te rappelle, qui éteint son portable et qui dit écoutez-moi, il y en a marre, on paye trop cher, c'est plus possible, il faut changer les choses. Et là tout le monde s'arrête, donc mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et le mec fait je sais pas, mais il faut y aller tous ensemble et tout ça. Et les autres se foutent de sa gueule et se barrent. Et là on arrive, on est dans la fin du clip, c'est un point levé avec un portable, mais un point levé sur fond rouge, donc vraiment le visuel 68art, avec télémobile. En gros c'est le slogan, je crois que c'est Télé 2 aide les leaders de la révolution, un truc comme ça. Pour faire une bonne révolution, il faut que vous soyez aidés par nous, par Télé 2, pour faire une vraie révolution du portable. Voilà, donc ça c'était la troisième. Et puis,
ben, on y pensera la prochaine fois.
Voilà.
Qu'on descend dans la rue.
Voilà. Et la dernière, qui est en date, mais que vous avez vu aussi cette semaine, je pense, enfin, je crois 15 jours qu'elle est en place, cette campagne, elle est incroyable, celle d'Intermarché Écomarché. Qui vous impose tous les jours là, quand vous circulez dans la ville de Tours, des 4x3 aussi, des affiches partout sur les sucettes de co et puis les abribus, c'est tous unis contre la vie chère. Le combat continue, nous restons les moins chers. Voilà. Donc pareil, hein, des gros slogans bien lourds qui rappellent
en rouge et noir.
En rouge et noir, qui rappellent évidemment le.
Rappelle Jeanne Mas, évidemment, tout le monde y a pensé.
Qui rappellent les visuels de 68 et surtout les visuels de la lutte politique et surtout des mouvements sociaux. Quoi. Donc là c'est pareil, en fait, je crois même qu'il y a une sorte d'accord entre Leclerc et Intermarché, ce que j'ai pu voir sur internet, pour utiliser les mêmes thèmes, les mêmes formes de lutte pour justement récupérer, parce qu'il y a une offensive de Leclerc et d'Intermarché pour faire baisser les prix dans leurs hypermarchés pour pouvoir encore payer moins cher les producteurs qui produisent les objets qu'on consomme. Mais en delà de...
L'idée de Leclerc depuis longtemps, hein, c'est d'enlever la loi qui dit qu'on n'a pas le droit de vendre à perte pour évidemment pouvoir vendre des produits en perdant de l'argent, sachant qu'ils en récupéreront sur d'autres. Mais s'il y avait une loi comme ça qui passait, ça voudrait dire que les producteurs évidemment seraient encore plus emmerdés qu'ils le sont aujourd'hui, et que la petite distribution ou tout ce qui est petit commerçant n'existerait plus du tout, évidemment.
Ouais. Alors au-delà de l'aspect évidemment politique de ces campagnes-là, là ce qui nous a frappé, ce qui frappe pas mal de gens, notamment des militants anti-pub dont on a fait partie à des moments
Oh, pas beaucoup. Hein. Voilà, pas beaucoup. Restons modestes, on n'a pas fait grand-chose.
Voilà. Ce qui est incroyable, là, c'est que après donc 2002, où il y a eu un début, notamment un tour de mobilisation anti-publicitaire, des grosses assos, des assos qui ont commencé à devenir de plus en plus grandes, comme Casseurs de Pub à Lyon, comme Rap Résistance à l'agression publicitaire, comme l'affaire des anti-pubs de Paris qui ont eu un procès pour détournement d'affiches, pour arrachage d'affiches dans le métro. Bah après, que font les publicitaires? C'est-à-dire qu'ils récupèrent les idées de lutte politique. Ils récupèrent les idées de lutte politique, ils récupèrent les visuels, ils récupèrent les slogans pour nous faire vendre leurs produits. Alors, ce qu'il y a à dire là, c'est qu'il y a une attaque frontale sur plusieurs axes contre le mouvement social. La première, c'est d'une part de récupérer ces slogans et ces visuels. Du coup, quand nous, on voudra les utiliser, on dira « Ah oui, c'est comme dans la pub, machin ». Surtout, ah oui, bah d'accord, vous êtes révolutionnaire comme dans la pub pour Télé 2, en gros. La deuxième attaque forte, c'est quand même un mépris, là, il faut le dire, le mépris des publicitaires pour le mouvement social. Parce qu'en fait, toutes les pubs ridiculisent, sans du tout mettre les nuances, ridiculisent et méprisent. On sent un mépris fort de ces slogans et du coup aussi de 68, de toute la lutte politique et syndicale depuis 68. Voilà. Le troisième axe, c'est vraiment d'enlever un peu. C'est ce que dit très bien Naomi Klein, donc une nana qui a travaillé, canadienne, qui a travaillé sur le marketing, que c'est vraiment un des axes marketing auxquels ils ont réfléchi. Hein, ils ne font pas ça juste pour rigoler, ils le font sciemment pour, en gros, se dire à chaque fois qu'il y a une contestation en place, qui se met en place contre la pub, il faut récupérer la forme de cette contestation. Comme ça, on coupe l'herbe sous le pied de ces contestataires qui seront désorganisés et qui pourront plus, du coup, réutiliser leur forme de contestation. En gros, aujourd'hui, si vous êtes détourneur d'affiches, c'est difficile de continuer à en détourner parce que les marques elles-mêmes se détournent elles-mêmes. Quoi. Donc, du coup, il va falloir trouver d'autres façons. Alors, c'est bien, parce que ça fait réfléchir les militants et ça les remet en question. Mais c'est évident que l'impact qu'ont ces publicitaires-là, c'est de noyer toute contestation. Alors moi,
Mais ce qui se fait de manière plus générale, de toute façon, toute société intègre sa propre critique. Elle le fait la plupart du temps.
Ouais, ouais. Et là, les chefs marketing sont spécialistes là-dedans. Alors à Tours, l'autre jour, ça m'a fait sourire. Je me dis qu'il y a encore, une campagne de grande ampleur contre les pubs Intermarché. Mais sous une pub, tous unis contre la vie chère, il y a un gars qui a rajouté, une nana qui a rajouté au marqueur qu'on voit très peu, mais juste en dessous, mon cul, oui, et avec un point d'exclamation, et ça m'a fait rigoler. Donc c'est la seule contestation que j'ai eue. Il y a sûrement des choses à faire, d'appeler par exemple les responsables de ces campagnes, dont on a les numéros de téléphone. Hein, Télé2, si vous voulez téléphoner à Télé2, le contact chez Télé2, c'est Stéphanie Oustry, donc 01 46 99 10 80. 01 46 99 10 80 pour lui demander un petit peu en quoi est-ce qu'elle veut vraiment la révolution, parce que du coup nous on est plutôt partant, donc il faudrait qu'on se mette d'accord. Leclerc, Intermarché, j'ai perdu le numéro, mais je vous le connaîtrai plus tard.
Et puis si t'as un rendez-vous, tu nous le dis, qu'on puisse s'organiser pour faire une réunion pour préparer la révolution.
Voilà, la révolution des portables. Ouais,
parce qu'on peut presque faire une analyse optimiste aussi, hein, en se disant que si ils utilisent tout ce côté-là révolutionnaire, c'est qu'ils savent que c'est des choses qui marchent, hein, dans le sens où il y a une espèce de sentiment de révolte un peu général qui peut être exploité par la publicité. Mais du coup, s'il est exploité par autre chose que des vendeurs de poireaux, ça peut être
pas mal. Alors sans transition, en fait, parce que c'est aujourd'hui et que la Nouvelle République, on l'a lu ce matin, parce qu'on devient des lecteurs assidus de la Nouvelle République, on a donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, le quatrième forum des jeunes qui se passe cet après-midi au Hall de 13h à 18h, je crois.
Alors les jeunes, c'est de quel âge à quel âge?
Les jeunes, c'est pas écrit, quoi, mais en gros, pour donner une ordre d'idée, ils font gagner un voyage pour deux à Amsterdam. et un home cinéma. Ça rassemble en fait tous les institutionnels de la ville. Donc évidemment, la manif. Alors, je ne vais pas parler de la manifestation en soi parce qu'on aurait beaucoup à dire, mais je vais juste lire l'article, pas dans l'essentiel, c'est juste une brève. Hein. Mais en gros, la NR dit « Cette manifestation est organisée avec la ville de Tours, l'université, le Crous, le Bige, le musée des Beaux-Arts, l'Opéra, le CDRT, le Petit Faucheux, la Maison des Associations Culturelles, la Société Générale, Fil Bleu, Urbania, Tours, France Télécom, Sephora, Adeco, Complétude, Silk, Eurolines, Europe 2, Méga CGR, Centre, l'ASMECO et OSE. Alors, ce que oublie de dire la NRLA, comme d'habitude, c'est-à-dire qu'ils ont reçu un communiqué de presse en annonçant la journée, le 4e forum des jeunes OAL, ils l'ont foutu comme tel dans leur journal, alors que moi, je ne suis pas journaliste, moi j'ai un autre travail qui me prend 35 heures dans mon temps, que je suis juste intéressé par les questions sur la jeunesse, et que du coup, je me retrouve avec ça en me disant mais de quoi ils parlent là, parce que en fait ce qu'ils n'ont pas dit là, c'est que le forum des jeunes, il est pas là, on sait pas qui c'est qui l'organise, on a l'impression que c'est une initiative de la ville. Et bien non, c'est la Société Générale qui organise, c'est la Société Générale, la banque, qui organise ce forum des jeunes. Elle est citée dans l'article de l'ANR là comme une des assos qui serait participante, alors qu'en fait c'est elle qui organise. C'est pas n'importe qui, la Société Générale qui l'organise, c'est le service marketing de la Société Générale qui l'organise. Je sais parce que je les ai appelés au téléphone pour en savoir plus. Donc en gros, c'est comment arriver à faire placer la Société Générale chez les jeunes. Quand vous allez, j'ai été l'année dernière à ce forum des jeunes, vous avez plein de stands évidemment de 20 partenaires de la ville, et vous avez plein de stands de la Société Générale qui essayent de faire ouvrir des comptes aux jeunes. Donc là, c'est vraiment une tentative marketing de la Société Générale de faire ouvrir des comptes chez eux, sauf qu'ils le disent pas, sauf que sur l'affiche ça se voit pas du tout. Ça se voit que si on s'y rend. Le pire de tout, c'est que quand on a ces gens-là au téléphone, ils vous disent en gros, pour y participer, soit vous êtes institutionnel et on vous le fait gratos, parce que quand même, ça fait bien d'avoir la ville de Tours dans son forum. Soit on est une asso, ou comme là, le petit Faucheux, la maison des associations, tout ça. Et il y a une contrepartie, c'est-à-dire que pour participer au forum des jeunes, il faut soit payer, et c'est pas donné, c'est 500 euros le stand, soit il faut payer en communication. Je suis une radio, par exemple, le RTL2, je crois que c'est dedans. Europe 2 par exemple, ben voilà, ils vont dire bon ben on vous fait des spots de pub et puis on pourra assister, participer au forum des jeunes. Donc du coup, ce qu'on peut être à peu près sûr, c'est que vu le prix de la salle polyvalente des Halles que la mairie doit louer à la Société Générale, c'est évidemment une campagne marketing de la Société Générale qui va rapporter de l'argent à la Société Générale, ça c'est clair, parce que si les stands coûtent 500, tout ça, c'est une opération publicitaire pour la Société Générale, parce que tous les jeunes qui vont s'y rendre, ils vont être un paquet cet après-midi, ils vont passer devant des stands de la Société Générale, il y en aura partout, et le visuel de la Société Générale sera partout. Et puis en plus, ils vont permettre d'ouvrir plein de comptes chez eux grâce à ce forum-là.
Ouais, mais donc, ils iront peut-être à Amsterdam, hein,
c'est la voilà, sinon ils gagneront. Alors, donc du coup, encore une fois, merci à la NR d'être aussi précis, qu'ils fassent un peu d'investigation, parce que là, du coup, c'est des choses comme ça. C'est peut-être que si on savait que c'était pas la mairie qui organisait ces machins-là, mais des banques pour faire des opérations marketing, on irait peut-être moins.
C'est plus qu'une imprécision, hein, c'est une erreur et c'est un mensonge, vrai de vrai, puisque effectivement, ils commencent en plus en disant avec la ville et l'université, donc en commençant par les choses publiques, alors que c'est bel et bien un forum organisé par un service marketing d'une banque.
Très bien, alors une minute, on va terminer par une surprise de Philippe. Avant...
Ah non, c'est Rocard qui m'a appelé, il a une question à... Michel Rocard a une question à nous poser, donc on va l'écouter.
On va l'écouter, pas tout de suite, on fait une petite pause, et après on l'écoute. Voilà, c'était juste une petite pause musicale très courte que Philippe adore et que Com, tu vas finir, je pense, par adorer. Bon, alors on écoute Michel Rocard qui nous pose une question.
On va essayer d'y répondre.
Et on essaie d'y répondre.
Est-ce que le communicant décide pour son client, mais pour l'homme ou la femme politique qu'il défend ou prononce, ou est-ce que le responsable politique obtiendra du communicant de n'avoir que les avis techniques sur la manière de communiquer, mais pas des avis qui pèsent sur la nature des décisions qu'on prend. Et c'est un fameux débat qui est extraordinairement complexe, parce que la vérité de l'influence décisive sur qui fait la décision finale entre le politique et son communicant n'est pas communicable à l'opinion.
Voilà, c'était Michel Rocard dans toute sa splendeur.
Alors, qu'est-ce qu'on répond? Bon, on va se dire qu'on se laisse 15 jours pour y réfléchir, donc on répondra la semaine prochaine.
Non, mais Com avait quand même une analyse très courte sur Michel Rocard et son vocabulaire.
Oui, en fait, c'est lui. Alors, c'est un extrait issu d'une émission qui a été diffusée dimanche, qui était pour toujours très intéressante, mais où, entre autres, il y avait un passage où Rocard analysait sa propre communication. Où il disait donc clairement qu'il avait engagé des communicants à un moment pour comprendre pourquoi est-ce que les gens le comprenaient pas et aimaient pas quand il parlait. Parce que bon, effectivement, quand on l'entend, on a l'impression que c'est compliqué et qu'on comprend pas. Et en fait, ils ont fait une analyse de ses discours, de toutes ses interventions, et il a un vocabulaire très simple, c'est-à-dire qu'il a vraiment le vocabulaire que n'importe qui peut comprendre en ayant été à l'école primaire, un vocabulaire de 2000 mots basiques. Mais c'est la forme, c'est la construction et la mise bout à bout des mots qui passent pas. Et c'était assez intéressant, on y reviendra sûrement plus longtemps, parce que c'est quand même un homme politique qui a été potentiellement président et qui a été Premier ministre, et qui dit clairement, bah oui, j'ai engagé des communicants pour qu'ils m'expliquent pourquoi est-ce que les gens m'aimaient pas. Et je trouvais ça assez fort, même s'il est en fin de carrière évidemment, mais parce que évidemment les communicants, la plupart des hommes politiques ne disent toujours pas qu'ils ont recours à des communicants, ils ont des attachés de presse, des choses comme ça, mais aucun homme politique vraiment actuel et qui a encore une carrière devant lui ne dit clairement qu'il fait appel à des communicants pour lui construire une image. Donc là, Rocard expliquait qu'il avait fait des analyses techniques pour comprendre pourquoi est-ce que ça marchait pas ce qu'il disait, et c'était assez intéressant.
Ok, il est 12h04, on a dépassé largement notre temps. On se dit au revoir et à la semaine. Pas la semaine prochaine.
Non, dans 15 jours.
La semaine prochaine, ce sera l'émission.
Roquefort et caramel.
Ok. Ouais. Bon, eh bien, on écoute notre superbe générique de fin et après, on s'en va.
Ouais. On a réussi à placer Balavoine sur Radio Béton, on est super content. C'était le défi, donc Balavoine en direct sur
Radio Béton. Générique de fin, en fait.
Voilà.
Une erreur a été commise par l'ensemble de la presse et par nous-mêmes hier soir.
La relation privée d'un homme politique avec un patron d'entreprise, fut-elle une entreprise de médias, ça fait partie de la vie publique, de la vie privée.
Vous verrez, vous êtes jeune, dans une vingtaine d'années, vous serez aussi celui qui tutoie les hommes politiques.
Non, il n'y a pas de sujet tabou, il y a simplement, je crois qu'on peut parler de n'importe quel sujet à la télévision à n'importe quelle heure. Il s'agit de savoir comment on va le faire.
Une erreur a été commise par l'ensemble de la presse et par nous-mêmes hier soir.
Je peux dire une chose importante. Vous avez parlé pendant 10 minutes au moins de l'affaire Georges Marché, dont tout le monde se fout strictement. Je vous signale que la jeunesse française se fout strictement de ce que M. Marché faisait pendant la guerre. Ce que je voudrais savoir, ce qui m'aurait intéressé, c'est de savoir à qui les travailleurs immigrés payent les loyers qu'ils payent. On a vu tout à l'heure des gens qui disaient on paye 700 francs par mois. Moi, je voudrais savoir qui encaisse de l'argent pour louer des poubelles par an. C'est ça que je voudrais qu'on me dise. C'est pas l'information qui me le dit. Je voudrais savoir pourquoi M. Boulin a été suicidé ou s'est suicidé, on ne le saura jamais. Pourquoi M. Fontanet a été assassiné, pourquoi l'affaire de Broglie n'a jamais été éclairée, pourquoi le juge Renaud, on ne sait pas ni pourquoi ni comment il a été assassiné. J'en ai d'autres. La seule chose que je peux vous dire, M. Mitterrand, c'est que la jeunesse se désespère, elle est profondément désespérée parce qu'elle n'a plus d'appui, elle ne croit plus en la politique française. Et moi, je pense qu'elle a, en règle générale, en résumant un peu, bien raison. Ce que je peux vous dire, c'est que le désespoir est mobilisateur et que lorsqu'il devient mobilisateur, il est dangereux et que ça entraîne le terrorisme, la bande à Bader et des choses comme ça. Et ça, il faut que les grands personnes qui dirigent le monde soient prévenues que les jeunes vont finir par virer du mauvais côté parce qu'ils n'auront plus d'autre solution. Voilà, et je vous remercie de m'avoir laissé parler.